SPUCLEFGUTILE。
Dans cette release de CPU, une interface chatoyante, des activités éducatives, du code participatif et une communauté mondiale. L'équipe aujourd'hui, Solarus, Eugène Lowe et Descritch. Notre invité est Bruno Coudouin, créateur du logiciel éducatif J'ai compris. Et j'espère que tout le monde, public inclus, a mis son Noël PC sur silencieux. Hein ? Sinon, XO, c'est exclu des cours. Allez hop, c'est parti. Bonjour à nos amis de Combustible Numérique. Eugène, fais attention en redescendant. Bonjour à l'équipe de l'atelier TA qui nous accueille ce soir donc pour nos enregistrements. Bonjour au moustachu de Ça fait écho qui est derrière caméra. Non, ça va, c'est solide, heureusement. C'est une démonstration. Et bonjour au public qui nous a rejoint ce soir et qui peut s'applaudir parce qu'il s'aime beaucoup, bien fort. Et ça nous fait vraiment plaisir. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui trouves plus compliqué d'écrire une multiplication en Python plutôt que de retenir la table de 7. Franchement ? Bon, quand même. Dans un précédent épisode, on parlait de l'éducation au numérique, mais aussi l'éducation avec le support numérique. C'est-à-dire quand un appareil intervient dans une matière non pas comme sujet, mais comme outil d'apprentissage, en histoire, en maths ou en langue, par exemple. Et justement, d'ailleurs, pour les langues, qui se souvient des salles de bio, des salles de labo de langue avec leurs pupitres magnéto et casque, un dispositif qui permettait à chaque élève de pratiquer pendant une séance une langue à son rythme, pouvant réécouter la même phrase autant qu'il le souhaite.
Écouter et répéter.
C'était chouette, mais très coûteux, compliqué à installer et d'un maniement peu pratique. À la moindre erreur de manipulation sur le pupitre du maître, c'était une séance entière qui devenait du temps perdu et la moindre panne pouvait devenir très compliquée à réparer, faute de connaissances ou de budget. Enfant du futur immédiat, t'imagines bien que de telles expériences aident à concevoir un cahier des charges. Le matériel doit donc être robuste, léger, autonome, petit mais pas trop, très facilement réparable parce que ton maître d'école a autre chose à faire qu'à mettre la jour antivirale de la base. Oui, c'est ça. Avoir du contenu éducatif. Oui, merci Captain Evidence. Et surtout, pas cher.
Écoutez.
Pas cher.
Et répétez.
Vraiment pas cher. Que cela soit pour les pays en voie de développement ou pour les pays suffisamment développés pour que ses gouvernants aient une obsession autodestructrice de la réduction des coûts. Si on peut éviter de demander aux parents d'acheter l'appareil, c'est bien mieux pour les enfants dont les familles sont dans la panade. Et quand les enfants ont fini leur année ou leur cycle, il faut pouvoir récupérer les appareils et les recycler pour qu'ils servent aux classes suivantes, parce qu'entre nous, s'ils n'en veulent plus et si on pouvait en faire quelques économies à côté, hein, ce serait bien. Et du coup, on a eu aussi des calculatrices programmables. Le MO5, dont on parlera dans une prochaine émission. L'OLPC à 100$. Ah non, ça, on ne l'a pas eu. Et le tableau numérique. Reste plus que le livre numérique de Sophie qui nous faisait tant rêver dans les années 80 en regardant l'inspecteur Gadget. Ah non, mais en fait, ça existe déjà, ça s'appelle un iPad. Excusez-moi. Pour produire des contenus, les éditeurs de manuels scolaires éditent depuis belle lurette du logiciel éducatif. Nathian, Attier, Bordas, Hachette. De nos jours, ces éditeurs sont regroupés en très grands groupes avec les dérives issues de cette position privilégiée. Et comme le marché du livre scolaire en papier est en train de se réduire, malgré la réforme de l'orthographe qui est censée aider à racheter les manuels, inutile de te dire qu'il y a du monde dans la cour de récré de la transition numérique. Et je te parie, au digital levé, que les nouveaux acteurs nationaux vont tous très vite se faire absorber par les mêmes premiers de la classe. C'est triste. Car le numérique par rapport au papier peut faire remonter l'expérience. Alors comment les enseignants peuvent contribuer au support numérique ? Et après tout, comment les élèves peuvent contribuer, enrichir ? Après tout, cela marche très bien pour la Wikipédia ou la Wikidia, par exemple, l'encyclopédie éditée par les 8-13 ans. Enfant du futur immédiat, même si je suis sorti de l'école depuis... Ouh là là. J'ai une question qui te concerne. Et il va falloir que tu trouves la réponse par toi-même. Est-ce que la calculatrice est autorisée à la prochaine interro? Little Vicious Monkey, sacré Charlemagne. D'ailleurs, Charlemagne, en fait, avait objectivement rien fait de ce côté-là. Il avait fait d'autres crimes, mais non, pas ça. Vous écoutez Radio Éphémère. Et c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Comment en vient-on à créer un outil éducatif de référence quand on est développeur et geek? J'ai compris se retrouver utilisé dans le monde entier sur de multiples plateformes et proposant un très vaste panel d'activités dans une trentaine de langues. Notre panel d'utilisateurs de moins de 10 ans lui a tous donné la meilleure note, 10 justement. Nous recevons Bruno Coudouin, responsable logiciel embarqué chez Continental Digital Services, créateur du projet J'ai compris, cofondateur de l'association Tout Libre et grand charmeur de Python. CPU, carré petit utile. Bruno, quelle est ta première expérience avec un ordinateur?
Ma première expérience, c'est avec... Moi, je voulais un ZX81. Mm-hmm. Donc, ça fixe un petit peu tout de suite ma génération, mon âge, pour ceux qui connaissent tout ça.
Ouais.
Et j'ai eu un Oric, hein, qui était mieux que le ZX81. Mais bon, c'était l'époque. Et donc, moi, j'ai appris le basique, j'ai appris à programmer là-dessus.
Ça t'excitait pas, là, les Thompson là, que l'on a devant nous?
Si, la semaine prochaine. C'est ma génération, tout ça. Mmh. Ouais. Et après, je me suis vraiment pris à ce jeu-là. Et je suis passionné d'informatique. Et après, j'ai eu un nouveau thème de passion, toujours auprès de l'informatique, quand j'ai découvert en fait les logiciels libres, qui ont été une révélation un petit peu chez moi sur l'aspect politique derrière le logiciel, où le logiciel n'est plus uniquement un produit qu'on échange, c'est aussi un savoir qu'on échange, et c'est aussi une autre façon de concevoir le logiciel, c'est aussi un aspect collaboratif, et on est autour de la création et non pas uniquement autour d'une société, des gens qui sont payés pour faire ça. On crée parce qu'on a envie de créer, on est dans le monde geek, monde libre. Et en même temps, on fait un mouvement politique où on a envie que le savoir soit partagé, que tout le monde puisse accéder à un ordinateur, que tout le monde puisse allumer un ordinateur sans avoir à payer quelqu'un ou à payer une taxe, une redevance.
C'était immédiatement, en fait, justement, par cette disponibilité du logiciel et ce que cela signifie au niveau philosophie et politique qui fait que tu t'y étais lancé, quoi.
Moi, j'avais pas ça au début, mais au début, ça n'existait pas. On avait un ordinateur, on n'avait pas Internet, donc toute cette notion politique, j'étais trop jeune pour m'en rendre compte. Moi, j'ai découvert quand j'ai commencé à travailler, où on n'avait pas encore Internet et on s'échangeait. Il y avait la Free Software Foundation qui avait créé ce mouvement aux États-Unis. Donc ça devait être en 1983, je crois qu'ils l'ont créé, mais moi, je n'avais pas accès à Internet, donc on ne savait pas. Et c'est en 93 à peu près que j'ai découvert ça et on achetait les cassettes de gens aux États-Unis qui avaient créé des logiciels et c'était un peu une seule façon d'avoir des logiciels qui avaient fait d'autres personnes et qu'on pouvait sur laquelle on pouvait avoir du code source. C'était la première fois qu'on pouvait voir le code source qui avait été créé par d'autres personnes. D'habitude, le code source était créé dans les entreprises, en petits comités ou des gens qui étaient payés pour ça. Et après, on recevait le résultat du code, mais on ne savait pas comment ça avait été créé. Et savoir comment les autres ont fait, comment ils s'y sont pris, c'est extrêmement enrichissant pour toi-même progresser dans ton métier.
Présente-nous donc, j'ai compris.
Donc j'ai compris, donc dans la suite de cette mouvance où j'ai découvert le logiciel libre, j'ai eu des enfants et je me suis dit, ben moi je travaille sur système d'exploitation Linux, on était en 2000 et j'avais envie d'offrir à mes enfants des logiciels éducatifs sur Linux alors qu'à cette époque-là ils étaient tous fournis sur Windows. Et donc, ne trouvant pas vraiment de logiciel ou pas, il n'y avait pas grand-chose, donc j'ai décidé, je me suis dit, ben, je vais en faire un. Et j'ai commencé à en faire un qui n'était pas très évolué, puis je l'ai publié sur Internet, et puis là, il y a des gens qui ont dit « Ah, mais c'est intéressant ton logiciel, on pourrait faire ça avec, est-ce qu'on pourrait améliorer telle et telle chose ?» Et puis je me suis pris au jeu, j'ai continué à l'améliorer, à le faire évoluer. Jusqu'à rejoindre donc une communauté de développeurs autour d'un projet, un gros projet autour de Linux qui s'appelle GNOME à l'époque.
Et le G de J'ai compris, justement.
Qui est le G de J'ai compris, qui est le G de GNU. Donc le GNU, c'est le nom de code du projet de la Free Software Foundation. Et puis c'est la genèse. Donc à partir de 2000, je me suis lancé à travailler un peu tous les soirs, un peu les week-ends, à travailler sur ce logiciel, à l'améliorer. Il y a des gens qui l'ont traduit dans une vingtaine de langues, puis 30 langues, et ça s'est diffusé. Donc on l'avait, c'est un logiciel qu'on avait standard, un petit peu quand on installait Linux. Ben par défaut, quand tu cherchais un logiciel éducatif, tu tombais sur J'ai compris très, très facilement. Quoi.
Voilà c'était un peu le fait que ça soit l'un des premiers projets qui en a fait sa popularité ou c'est sa qualité ?
C'est beaucoup les logiciels pionniers un petit peu qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde du logiciel libre, que ce soit les GIMP, les KDE, les LibreOffice, tout ça. C'est le fait qu'ils étaient là au début et après, petit à petit, c'est ceux qui sont là, qui s'enrichissent et qui s'améliorent. Donc c'est difficile pour des nouveaux projets d'arriver à dépasser des projets qui ont une masse critique de développeurs et une masse critique de code qui est déjà bien évolué.
Alors, ça fait super longtemps qu'on voulait faire cette émission avec toi, et donc il y a une collaboratrice de cette émission qui malheureusement ne peut pas être présente, c'est Myriam Chave. Je lui ai fait découvrir ce logiciel il y a 2 ans, elle a dit « Ah bon, qu'est-ce que c'est ?» Ben écoute, c'est ton prochain sujet, et elle a mis dans les mains de ses enfants, et ils n'ont pas lâché la tablette depuis. Pourquoi les enfants accrochent aussi bien, j'ai compris ?
Alors, déjà, le fait qu'ils accrochent comme ça, c'est bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a rien dans le logiciel qui est fait pour accrocher les enfants. C'est-à-dire que les logiciels aujourd'hui ont beaucoup d'ingénierie pour rendre les enfants et voir
pour
les
capter
adultes
l'attention, oui.
Addicts, en fait. Et donc, on voit pas mal d'adultes, peut-être vous, peut-être, voilà, qui jouent au jeu de manière addictive. Et donc, il y a toute une science maintenant dans les logiciels, dans la création de logiciels pour rendre les gens captifs de ça. Et donc, j'ai compris, nous, on n'a pas voulu faire ça parce qu'on n'avait pas la technologie pour le faire, on n'avait pas le temps de le faire, ça ne nous intéressait pas. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas ça qu'on voulait faire en plus et que c'était bien qu'on ne le fasse pas. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de badge, on ne gagne pas de points, on ne vous dit pas, tiens, tu n'es pas venu depuis longtemps, reviens, nanana, des trucs comme ça. Pour inciter les enfants à être captifs. S'ils veulent jouer au jeu, ben c'est comme un livre, ils viennent parce que le livre il est sympa. et qu'ils ont envie de continuer à le lire, mais le livre, il ne leur fait pas des clins d'œil pour leur dire hey, « tu ne m'as pas lu depuis 3 jours, reviens !» On ne fait pas ça.
Dans J'ai compris, il y a une palette de sujets assez impressionnants, mathématiques, géographie, langue et tout ça. Quel a été en fait le premier sujet qui a été pris ?
Le premier sujet, c'était apprendre à cliquer, apprendre à découvrir le clavier de l'ordinateur, apprendre la souris.
Donc c'était apprendre l'outil numérique avant tout, quoi.
Oui, c'était les premiers, c'était se familiariser avec l'outil informatique. Alors, paradoxalement, apprendre à utiliser une souris, il va falloir le refaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a toute une génération d'enfants qui vont arriver sur le milieu du travail et qui ne vont pas comprendre ce que c'est qu'une souris.
C'est vrai.
Donc, on va s'y remettre. Mais oui, c'était découvrir le clavier. Mais à travers découvrir le clavier, on découvre aussi la lecture, parce qu'en fait, il y a les lettres qui sont dessinées. Donc tout ça, c'est un petit peu lié. Et après, on a voulu être libre. On a voulu. Moi, je suis toulousain. J'avais envie de faire un logiciel sur les écluses, par exemple, parce qu'avec les enfants, on se balade toujours à côté des écluses. Et donc j'avais envie.
Et donc
de faire,
ça coulait de source.
Ça coulait de source, de se dire les enfants, ils vont s'amuser à comprendre la logique de je suis éclusier et j'appuie sur les boutons pour faire passer le petit bateau avec Tux dessus. Et après on s'est libéré, on est libéré du carcan éditorial de l'éducation nationale qui pourrait nous imposer telle ou telle thématique. Donc là on n'a pas du tout ça, on a fait comme on veut. Et l'éducation nationale, il y a beaucoup de professeurs qui s'y sont retrouvés, qui ont récupérer les activités pédagogiques qu'on avait dans J'ai compris pour les intégrer dans des projets pédagogiques qu'ils avaient eux. Mais on n'est pas du tout lié à un cursus ou un autre, quoi.
Je vois Eugène Lowe, malheureusement, qui n'arrête pas de faire du bordel à côté et je vais devoir le mettre au coin. Mais peut-être qu'il a quelque chose à exprimer là.
Si je fais du bordel, c'est parce qu'en fait, il faut que je prépare une potion. L'idée en fait de ma chronique chaque semaine, c'est de vous faire vivre mon rêve de la veille. Et pour ça, j'utilise une boisson un peu hypnotique. Alors, il faut que je fasse la recette. Donc, je vais mettre quelques miettes de peau de testicule de Giscard. Un sachet de Tang citron, goût citron de 1973, un œil de Gilbert Montagnier, 4 cheveux de Brigitte Fontaine, et voilà, ma boisson hypnotique, ça sent assez bon,
c'est pratiquement midi en fait.
Ma boisson hypnotique est prête, alors je vais boire. C'est délicieux. Chut, taisez-vous, ça y est, ça agit immédiatement, je suis là immergé dans mon rêve. Ah ben tiens, c'est marrant, je suis devant mon PC. Ah, je t'écris un mail, mon cher Daskritch. Mon ami, si tu reçois ce mail, c'est sans doute parce que tu as regardé une vidéo sur un site éducatif pour adultes. J'ai caché un programme malveillant à l'intérieur de la vidéo par un protocole chiffré en SSCHIAS. Et bim, ton ordi a une bonne gastro. Surtout, n'ouvre pas le lecteur DVD. Ça va gicler, il y en aura partout et l'odeur va être intenable. Qui c'est qui va avoir des mouches coincées dans les condensateurs parce qu'elles essayent de pondre des œufs bien au chaud ? J'ai connu un virus assez virulent. C'est très liquide et il est possible que ça remonte par les touches, surtout si tu appuies dessus. Et malheureusement pour toi, j'ai passé une seconde couche en C++ qui a envoyé une capture d'écran sur mon serveur de la vidéo que tu es en train de regarder. C'est moche. Bouchez-vous les oreilles, les enfants. C'est un tutoriel sur la fabrication de jumelles électroniques dites Stevie Wonder pour y voir tout noir, de près comme de loin. Mais tu n'as pas honte, pervers. Daskritch, c'est très mal. Bouh, vilain ! Pour te punir, j'ai aussi activé à distance ta caméra et enregistré une vidéo où l'on peut voir...
Tu peux y aller, il y a un cache.
Donc, sur cette vidéo, on peut voir juste à côté du sopalin comment tes mains caressent avec des va-et-vient de plus en plus rapides un stylo dont tu te sers pour prendre des notes. Le sous-malin, j'imagine que c'est parce que l'encre a coulé, hein. Sache que ton ordi complètement infesté m'a aussi donné accès à tous tes comptes de réseaux sociaux. Ton Insta, ton Snap, et même ton MySpace et ton Skyblog.
Alors c'est ton premier, je suis sur aucun des quatre.
Il y a aussi le Jackie Michel. Ah non, ça, autant
ah
pour
merde.
Moi. Celui-là, c'est un compte à Solarus. Aussi, Daskritch, tu as 72 heures pour me verser la somme de 666 € en bitcoin sur mon compte. Sinon, je diffuserai la vidéo à l'ensemble de ton réseau relationnel et ruinerai ta réputation. Bien évidemment, je détruirai tous les contenus dès que tu m'auras viré l'argent. En toute amitié. Et au moment où j'allais cliquer pour envoyer le mail, je sens une main se poser sur mon épaule. Ah ! C'est Balkany. Oui, Eugène, c'est Patrick. Bon, arrête tes conneries avec les bitcoins. Ce qu'il te faut, ce sont deux gros sacs Adidas remplis de francs CFA. Ça, c'est facile à réinvestir. Et s'il te plaît, rajoute des zéros. On a une extension de la baraque à finir avec Isabelle. Bon, et là, je crois qu'on a un expert. Donc, vous me voulez l'écouter, je modifie le mail. Et au moment où j'allais cliquer sur « Envoyer le mail », je sens une main se poser sur mon épaule. Ah ! Salut, c'est Solarus. Dis-moi, tu pourrais rajouter encore un zéro parce que j'aimerais bien prendre l'abonnement premium à mon compte Jackie et Michel. Même, c'est quand même un peu cher. Et au moment où je vais envoyer le mail, bip, 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 et mince, je n'aurai finalement pas le temps de t'envoyer ce putain de mail, la Screech. Le réveil en a décidé autrement. Je ne pourrai donc pas être plus riche, mais il y a une moralité à cette histoire. Si tu regardes des vidéos éducatives pour adultes sur des sites assez douteux, il est sans doute préférable de mettre un petit scotch noir sur ta caméra. Ça évite les mauvaises surprises, surtout si le sopalin à côté de toi n'a pas servi à nettoyer l'encre du stylo qui a coulé.
Alors figure-toi que justement j'ai un cache sur mon qui m'a été filé par Cozy Cloud. Donc j'ai ce qu'il faut et tu peux toujours tenter, mon cher ami. Dans tes rêves.
Il y a des vers dans mon verre.
Ouais,
c'est bizarre, hein.
Je vous jure que ça pue vraiment.
Il y a des vers maintenant, c'est ignoble.
To play. I said, listen, I'm gonna give to you the reason. I try to make my own decision, but I think I'm feeling down. But I think I better run. Hey girl, I sing, I understand, listen. I sing, I'm lost in the ocean, and you know.
Mix, Listen, extrait de l'album Stuck in a Cruel World, sorti en 2012. Je crois d'ailleurs que ce morceau est encore dans la playlist de Radio FMR. Que vous êtes en train d'écouter, coquin de sort. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous sommes donc avec Bruno Coudouin, créateur donc de J'ai Compris. Qui a tant à nous dire, même si quand même il a quitté le projet, ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Qu'as-tu dû reprendre à zéro dans J'ai Compris à la demande de ta communauté?
Alors, ce qu'on a repris à zéro, c'est que le logiciel, les choix technologiques qui avaient été faits au début en 2000, se sont retrouvés pas très adaptés, voire pas adaptés du tout pour fonctionner sur les nouveaux matériels, les tablettes, smartphones et autres joyeusetés qu'on a dans la main et dans la poche tous les jours. Et donc, il y a 4 ans maintenant, j'ai décidé de reprendre le projet à zéro et de tout réécrire dans une nouvelle technologie KDE, QML, Qt Quick pour ceux qui connaissent cette technique.
Pour ceux qui connaissent un petit peu quand même, GNOME et KDE, c'est deux projets plus ou moins concurrents dans l'open source, donc c'est vraiment un revirement, quoi.
Un virement, voilà, ouais, complètement, ouais. Voilà, changer complètement de communauté dans la communauté concurrente, mais avec beaucoup d'anicroches, mais beaucoup de ressemblances aussi.
Ça change pas mal entre les deux, donc ça va.
Dans le fond, voilà, dans l'éthique, il y a les mêmes passions. Et donc, cette technologie m'a permis d'amener le projet, de le faire vivre complètement et de le faire tourner sur toutes les tablettes, iOS, Android, Linux, Windows, macOS, tout ça à partir du même code. Donc, le même code. On ne peut pas se permettre, quand on est une petite communauté de développeurs, il ne faut pas s'imaginer les communautés de développeurs comme étant des milliers de personnes qui n'attendent que de coder les trucs qu'on a envie de faire. Donc, ça ne marche pas comme ça. Et donc, il faut être malin pour trouver des solutions techniques qui nous permettent d'adresser le plus de solutions possibles et de matériel possible avec le moins d'efforts. Donc c'était un bon choix et aujourd'hui ça tient encore, on est toujours là-dessus.
Quand j'ai compris à commencer à rentrer officiellement dans des écoles,
Très très rapidement, à peu
très
près,
vite.
Ouais, à peu près. Moi j'ai commencé, alors à côté du projet, on n'en a pas parlé, mais j'avais le sentiment qu'on pouvait aussi en faire une activité un petit peu commerciale. Et donc, j'ai voulu expérimenter et combiner les deux aspects, l'aspect logiciel libre et l'aspect commercial. Donc, on confond souvent, en fait, ces aspects logiciels libres en disant c'est logiciel gratuit. En fait, non, c'est des logiciels libres qui donnent un certain nombre de libertés, la liberté d'utiliser, d'étudier, de modifier, de redistribuer le logiciel, mais rien n'empêche de le vendre, même si ça complique un petit peu la donne. Et donc, à partir de 2003, où le logiciel commençait à être pas mal utilisé, j'ai décidé d'en faire une version Windows. Il ne tournait que sur Linux. Et je me suis dit, mais pourquoi je m'embêterais à faire une version Windows puisque moi, je n'utilise pas Windows. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire payer ceux qui sont sur Windows et sur Linux, ça continuera à être gratuit puisque c'est ma communauté, c'est eux qui m'aident. Et finalement, ce n'était pas une si mauvaise approche. Ça s'est très, très bien, ça a été très, très bien perçu. Et ça m'a permis d'avoir aussi, pendant tout ce temps, un petit revenu d'appoint, je dirais, qui permettait de continuer à se motiver. Parce que travailler sur un projet un peu tous les soirs et tous les week-ends, j'ai fait ça jusqu'en 2016, donc pendant 16 ans. Donc, c'est pas mal, quoi. Ouais. Donc, le fait d'avoir un peu d'argent à côté qui vient de ça, c'est sympa.
Et comment, en fait, tu as arrivé à discuter avec des institutions comme les académies, l'éducation nationale ou les ministères d'éducation d'autres pays ?
Alors, avec la France, il y a eu une relation particulière parce que c'est vrai que le fait d'être français, malgré tout, même si le logiciel est traduit dans plein de langues et pas mieux traduit en français que dans d'autres, néanmoins, le fait que je sois en France m'a permis d'accéder où la communauté s'est plus diffusée en France. Et il y a certaines personnes à l'éducation nationale, à certaines périodes, qui m'ont aidé, qui ont aidé le logiciel, qui ont aidé les logiciels libres. Je ne suis pas sûr que ces mouvements existent encore et que j'ai l'impression que ça s'est un petit peu perdu. Et que le monde un petit peu propriétaire fermé, des éditions numériques ont repris un petit peu le contrôle de la situation, quoi. Donc néanmoins, pendant quelques temps, effectivement, j'ai réussi à rentrer dans des catalogues de distribution de logiciels et ça a boosté un petit peu les revenus. Et dans d'autres pays, il y a des communautés, des académies parfois qui achètent le logiciel et qui disent « moi, je veux le logiciel pour le déployer sur 1000, 2000, 10 000 ordinateurs ». Et là, je faisais des cotations pour dire « voilà, je vous fais tant de prix pour distribuer le logiciel et l'installer sur tous vos ordinateurs ». Ça a été utilisé en Indonésie pour des éditions où il y a des endroits où il y avait des associations qui installent les logiciels dans des écoles, ils vont amener les logiciels à mobilette, parce qu'il n'y a pas Internet et il n'y a rien du tout. Et je faisais partie des logiciels qui étaient déployés dans les écoles à mobilette en Indonésie, quoi.
C'est une drôle de version du protocole IP. Hein.
C'est mobilette IP, voilà, ouais.
Du coup, c'est extrêmement gratifiant qu'il y ait une forte participation de la communauté. Donc, ça veut dire quand même ton logiciel se plaçait là où il y avait une lacune et où donc les éditeurs professionnels n'avaient pas identifié la manière de faire.
Ils n'avaient pas identifié la manière de faire et ils s'en foutaient parce qu'on ne peut pas gagner d'argent. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent. Même une personne, tu n'arrives pas à en vivre. Donc, eux, ça ne les intéresse pas, quoi. Mmh. Et à partir du moment où il n'y a pas d'argent, il y a le vide qui se crée. Et puis, il y a quelques des logiciels avec des gens un peu passionnés qui arrivent à faire vivre ça. Mais les éditeurs professionnels, ils ne vivent pas avec ces trucs-là.
D'un autre côté, toi, tu en es un petit peu sorti, justement, de ce côté-là. Il y a eu des gens pour le reprendre. Ce modèle semi-commercial, est-ce que, justement, il a continué ou finalement, il a été arrêté ?
Alors moi, j'ai souhaité tout faire pour que le projet continue. Donc aujourd'hui, il y a une équipe cœur de deux personnes que j'ai lancé dans la suite et qui était déjà présente dans le projet quand j'ai arrêté. Une personne qui s'appelle Johnny, un Français qui s'occupe de la partie technique, et un informaticien qui s'occupe de la partie technique, et une autre personne, Timothée, qui s'occupe de la partie graphisme. Et comme la partie graphistes, les artistes ont plutôt tendance à être un peu les mal-aimés de notre système commercial aujourd'hui, et donc ils ont plus de difficultés pour vivre. Donc j'ai donné la partie commerciale à Timothée, qui donc s'assure du support et donc il fait des tâches un petit peu pénibles autour de la commercialisation du projet, mais qui anime toute la partie commerciale et donc qui récupère l'argent et qui est auto-entrepreneur et qui déclare toutes ses revenus. Donc j'ai redirigé tous les flux financiers à Timothée qui s'occupe de ça maintenant.
Et actuellement, tu as plus d'utilisateurs en France, en Europe ou dans d'autres parties du monde ?
Ça a toujours été plus en France, c'était plus connu en France. Ouais. Mais après, c'est connu, c'était beaucoup, il y avait, dans les autres pays, il y avait beaucoup l'Indonésie, le Brésil, après les États-Unis, Canada, Québec, c'était très très connu. Un peu partout après dans le monde, ouais.
En tout cas, c'était une belle aventure. Est-ce que franchement, tu regrettes ou tu regrettes pas ?
Ouais, je regrette rien. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et au-delà de l'engagement, moi, j'estime que j'ai donné un petit peu le retour de. J'ai payé ma dette à tous les logiciels libres que j'utilise tous les jours et pour lesquels je ne donne rien. Donc c'était ma façon de contribuer à cette communauté, donc ça c'est déjà beaucoup. Mais surtout d'un point de vue technique, au point de vue de mon métier, moi je suis informaticien, j'ai appris énormément de choses. C'est des communautés où on est en avance sur les technologies, on utilise des technologies comme Git par exemple, qui était un gestionnaire de versions de logiciels,
on a déjà fait une émission là-dessus justement, on renverra.
Qui a été introduit d'abord dans les logiciels libres et qui est rentré après dans les entreprises. Donc il y a énormément de technologies qui ont été développées rapidement parce que dans les logiciels libres, on n'a pas de maintenance, de support, de choses chiantes à faire là où les entreprises elles freinaient de faire en disant ouais mais ça va casser, ça va changer, nanana. Dans le logiciel libre, on y va, on casse, on s'en fout.
Et est-ce que c'est facile, finalement, de faire comprendre à l'éducation nationale que oui, c'est un logiciel libre, mais ce serait bien si vous versez un petit peu d'argent ?
Non.
Non. Comment on y arrive ?
Mais comme ailleurs, comme dans les entreprises, ouais. Toutes les entreprises utilisent des tonnes et des tonnes de logiciels libres et très peu arrivent au stade de j'ai conscience que les logiciels libres, c'est quelque chose d'important dans mon écosystème. Je suis basé dessus et si les gars ils arrêtent de le faire, ils arrêtent de le maintenir, eh ben je suis dans la merde parce que c'est moi qui vais devoir le faire. De là à dire ben je vais quand même payer, financer des communautés, c'est quand même un peu difficile.
je veux bien croire. Bruno, marque une petite pause musicale. On va dans la cour.
Donne-moi ta main. Nous irons danser ce soir peut-être.
Donne-moi ta main et prends la mienne. Nous avons pour nous toute la nuit. On s'amusera quoi qu'il advienne. Mais oui, l'école est finie.
Sheila, l'école est finie. Ouais, enfin donne-moi ta main et prends la mienne. Je croyais que les châtiments corporels étaient interdits. Hein. Vous écoutez Radio Éphémère, c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. C'est au Forum économique de Davos en 2005 que Nicolas Negroponte présenta son idée. Construire un ordinateur portable à $100 afin d'aider l'alphabétisation des contrées pauvres. OLPC, One Laptop Per Children, un ordinateur portable par enfant. Tout un programme. Un engin rustique à l'interface multilingue et orienté éducation et qui devait pouvoir amener la connectivité Internet jusque dans les villages du Sahel. L'idée était belle, elle allait révolutionner le monde, mais pas comme prévu. Car la plus grande difficulté fut de faire chuter drastiquement les coûts des composants. Avoir un écran en dessous de $50 à l'époque, quand en fabriquer le plus bas de gamme de l'époque en valait 150. Marie-Lou Jepster, chercheuse en technologie d'affichage et CTO du projet, allait voir les fabricants d'ordinateurs qui lui répondaient poliment « Un tel design demande au moins de réaliser 15 miracles. Et nous avons une règle dans ce secteur. Un seul miracle par produit. » Ils avaient raison, dit-elle dans une interview de 2007. Un seul miracle par produit est une très bonne règle pour créer un produit. Mais OLPC n'était pas un produit, mais un effort humanitaire global. Un ordinateur fut finalement produit, le XO, mais bien plus cher que prévu.
Plantage.
Finalement, si le développement de l'OLPC n'a pu atteindre son objectif et être shippé vers les générations en voie de développement, plein d'industriels se mirent à réfléchir à faire des ordinateurs portables dans la lignée du Asus EEE-PC701 et des smartphones bien moins coûteux pour le milliard suivant d'individus connectés. En soit, avoir créé le concept de netbook n'est pas complètement un échec. Bruno Coudouin, toi-même, via J'ai compris, tu as été impliqué en fait dans le projet OLPC.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai découvert ce projet au FOSDEM, je ne sais plus en quelle année, peut-être 2005, où tous les geeks s'agglutinaient derrière cette machine qui allait révolutionner le monde. Et donc, je suis allé voir les concepteurs de cette machine en disant, ben moi, j'aimerais bien que mon petit J'ai compris soit intégré sur la machine et comment on pourrait faire. Et donc, j'ai fait quelques modifications. On a travaillé ensemble sur des modifications de J'ai compris à l'époque pour qu'il puisse fonctionner sur cette machine. Et donc, on a extrait un petit peu les logiciels, les parties pédagogiques de J'ai compris qui auraient pu être intéressantes et on les a fait marcher. Mmh.
Toi-même, j'ai cru comprendre que tu avais en fait une bêta de cette machine.
Oui.
En soit, quand tu l'as eue, tu t'es dit « Ah, ils l'ont fait » ou « Mais ça ne marchera jamais ».
Ben, je me suis dit « beau projet, magnifique ». Donc moi, j'avais la machine chez moi, donc j'ai cherché à faire marcher, j'ai compris, j'ai vu les difficultés que c'était. La machine était quand même assez lente vis-à-vis déjà de nos standards à nous. Mais on ne se rend pas compte que dans la main d'enfants qui n'ont jamais eu de machine du tout, l'image de la lenteur, c'est assez différent. Quoi. Mmh. Donc pour les enfants, c'était admirable d'avoir ça dans les mains.
Il y avait plein de concepts qui étaient intéressants. Donc il y avait ces espèces d'antennes autour de l'écran. On relevait, c'était les caches pour les câbles et en même temps, ça servait d'antenne pour le Wi-Fi. Mmh. Il y avait cette idée d'avoir un générateur à côté pour l'alimenter. Donc si on mettait un vélo, on branchait un vélo dessus, pour l'alimenter ou même faire une petite centrale hydroélectrique ou c'était génial mais en même temps c'était faisable.
La partie recharge, je crois pas qu'elle ait vraiment, vraiment jamais marché. À ma connaissance, je crois que c'était plus dans le cadre de projets que de réalité. En général, ils créaient plutôt des espèces de pieuvres et des centres des systèmes de recharge où les enfants ils pouvaient recharger la machine à l'école. Ils arrivaient tous et ils se rechargeaient tous là-dessus. Quoi. C'était beaucoup plus pratique quand même que de demander aux enfants, quand même, ils sont là pour étudier, de passer 2 heures à recharger leur machine. C'était quand même pas cool,
ouais,
quoi.
Ouais, tout à fait.
On voulait les faire jouer.
Il y avait Marie-Lou Jepster, dont j'ai parlé, donc qui était le CTO du projet, mais c'est aussi l'une des personnes qui ont été impliquées dans ce qu'on appelle l'encre électronique, donc les écrans qu'on a maintenant sur les liseuses et tout ça, puisque l'idée était de faire un écran qui marche aussi bien au soleil que dans la nuit par rétroéclairage. C'était quoi à peu près la résolution de...
Alors, il avait une très grande résolution pour l'époque. Aujourd'hui, les machines commencent à avoir des grandes résolutions. C'était une très grande résolution pour l'époque, ce qui fait que la densité des pixels, le procédé derrière, fait que effectivement, il avait une meilleure capacité d'affichage à l'extérieur, avec une luminosité extérieure que d'autres écrans à l'époque. Quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce que ça...
Je crois que d'ailleurs que ça marchait, c'était en noir et blanc quand c'était en réflexion directe au soleil et c'était en couleur en fait.
Il y avait un mode où on pouvait baisser la luminosité, le rétroéclairage et passer effectivement dans un mode noir et blanc où on pouvait lire. Ouais.
Et il y avait quoi dessus qui tournait outre, j'ai compris.
Alors en fait, ils avaient fait tout leur propre système en fait. C'était pas un Linux traditionnel qui fonctionnait dessus, c'était vraiment un environnement complètement pensé autour de l'enfant. Donc derrière la machine, il y avait un petit jeu de clapets de couleurs pour que chaque enfant puisse différencier sa machine. Et on retrouvait à l'intérieur le nom de l'enfant. Il avait une interface très 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 spécifique faite vraiment pour les enfants, avec des menus, des lanceurs d'applications pour accéder aux différentes applications.
Au final, donc l'OLPC, donc on a vu, ça a été surplanté par autre chose, mais d'un autre côté, comme la machine était sortie, qu'elle a plus ou moins été diffusée envers les bakers du projet, puisque je crois que l'idée c'était d'en acheter un, il y en avait un qui partait pour le tiers-monde, il y a quand même eu une visibilité pour j'ai compris, pour les logiciels qui étaient embarqués.
Pour j'ai compris, ça, y a eu le projet, la plus grande expérimentation qui a été déployée, qui est plus vraiment une expérimentation, on dirait que c'est de la production, c'est 900 000 OLPC qui ont été installés au Pérou.
Donc c'était quand même
plus gros déploiement. Et après, ça a été utilisé dans plein d'autres pays, mais pas forcément à des échelles aussi grandes. Et donc là-dessus, il y avait effectivement, j'ai compris, qui était installé sur ces ordinateurs.
Ouais. C'est quand même pas mal. Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Bruno Coudouin, créateur du logiciel J'ai Compris. Et donc, on va parler un petit peu justement de comment le numérique entre à l'école et comment toi tu le perçois. On va parler de solutionnisme technologique. Et est-ce que des fois c'est bien fait? Est-ce que tu as vu des usages inappropriés, totalement manqués, des outils numériques à l'école? Est-ce que par exemple l'idée des tablettes ou des tableaux interactifs, toi ça marche, ça marche pas au final?
Alors là, tu me poses une colle parce que je suis pas vraiment enseignant et donc je sais pas du tout répondre à ça. Moi, à la base,
pour ça que je te le pose, c'est que t'as pas un supérieur hiérarchique qui peut te foutre dehors.
Personne peut me foutre dehors, mais j'ai pas vécu. Je suis pas enseignant. Je l'ai pas vécu en cours. J'ai pas du tout vraiment vécu ça. Moi, à la base, c'était un truc pour mes gamins, pour qu'ils puissent avoir quelque chose. Et après, c'était pour dire, si les enfants, si les profs, ils ont envie vraiment, s'ils estiment que ça aide et que les logiciels, ils ont besoin de logiciels éducatifs, autant que ce soit des logiciels libres, quoi. Donc, c'était un peu la base. Après, ce qu'ils en ont
l'idée
vraiment
qu'ils puissent le ramener à la maison, quoi.
L'idée que ils puissent le ramener à la maison, que les enfants puissent l'utiliser chez eux, que les professeurs puissent participer et être partie prenante. Donc, dans la communauté, il y a des profs qui sont enseignants et qui corrigent le logiciel. Donc, par exemple, une petite anecdote que je cite souvent, c'est qu'il y a une activité pour découvrir, pour apprendre à bouger la souris. On en a parlé un petit peu. Et cette activité, il y a un prof qui s'est rendu compte que les garçons étaient meilleurs que les filles. C'est-à-dire, ils réussissaient plus vite. Mais en fait, les garçons, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils bougeaient la souris n'importe comment. et ça finissait par effacer tous les carrés dans, dans l'écran.
D'accord.
Alors que les filles, elles s'appliquaient, elles faisaient bien, elles, tac, tac, tac. Et donc, il a patché le logiciel, il a modifié pour qu'il faille rester au moins 150 millisecondes sur chaque case pour qu'elles puissent être considérées comme effacées. Et là, maintenant, les garçons, ils sont obligés d'effacer comme ferait... comme ferait une fille bien, bien appliquée.
Ouais, ils auraient pu mettre des carrés piégés qu'il fallait éviter. Ça aurait tout aussi bien marché.
On aurait pu faire plein de choses, mais c'est intéressant, c'est que c'est des choses que tu peux te rendre compte qu'en classe, qu'un professeur
peut se rendre compte. Oui.
C'est le retour utilisateur, voilà.
Est-ce qu'il t'a fallu d'adapter, j'ai compris, un certain type de matériel que tu n'imaginais pas ? On va parler des tablettes, par exemple.
Oui, ça effectivement, mais bon, tablettes, c'est un problème technique, mais la plus grande difficulté, c'est qu'il y a eu dans les anecdotes un petit peu, c'est des adaptations culturelles, puisque là, on vit ce qu'est un marché mondial. Et donc, quand par exemple, faut faire une version pour l'Arabie Saoudite, il y a certains, on avait fait des petits diables, on avait des petits personnages diables qui représentent BSD, les écoles en Afrique, il y a des écoles, même des écoles catholiques qui ont pas trop apprécié le diable parce que ça faisait peur aux enfants.
Enfin, ils pensaient que ça faisait peur aux enfants, peut-être.
Moi, je sais pas. Je sais pas. Tu as des informations précises?
Non, mais souvent, il y a des gens bien pensants qui pensent à la place des autres. Oui.
Voilà, donc un jour, on a fait une version quand même pour l'Arabie Saoudite, et quand on a enlevé tout ce qu'on n'a pas le droit de faire en Arabie Saoudite, le logiciel faisait la moitié du poids en kilo-octets du logiciel pour les autres pays, quoi. Donc on n'a pas le droit à la musique, on n'a pas le droit on avait des peintures d'impressionnistes un peu dénudées comme ils les aimaient. Bah, ça,
l'origine du monde par exemple.
Ouais. On n'a pas l'origine du monde, mais y a, même sans l'origine du monde, il y en a déjà des pas mal qui... Et donc je ne sais plus qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, mais c'était vraiment, vraiment...
D'ailleurs, truc amusant, l'origine du monde, il a appartenu à un prince arabe et c'est lui qui l'a fait recadrer puisque le tableau était plus grand à l'origine et c'est lui qui a vraiment mis au centre justement l'origine. Est-ce que tu as dû travailler l'accessibilité et comment ?
L'accessibilité, oui, ça on fait attention puisque c'est pour un jeune public, donc forcément on fait attention à ce que ce soit accessible. Après, on n'a pas l'accessibilité... pour les aveugles. Alors, malgré tout, même pour les aveugles, récemment, même si je suis un petit peu la communauté, moi, j'avais fait une activité pour apprendre le braille. Pas pour les aveugles, mais pour faire créer ce lien entre les voyants et les non-voyants, pour que des enfants voyants puissent comprendre comment on fait du braille. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le braille, c'est un codage numérique des caractères, donc on se rapproche de l'informatique. C'est assez intéressant. C'est comment je code avec 6 points un caractère. Et récemment, on n'avait pas fait comme il faut. On a compté les points de 1 à 5 au lieu de les compter de 1 à 6. Et il y a une école braille qui nous a, une école d'enfants non-voyants, qui nous a écrit en disant non, le logiciel, il n'est pas comme il faut. Et une fois, j'avais vu un reportage aussi au Mexique où ils étaient dans une école non-voyante. Et ils montraient les logiciels qu'ils utilisaient. Dans les logiciels qu'ils utilisaient, il y avait « J'ai compris ». Donc, j'aimais bien, de temps en temps, aller sur YouTube, regarder les vidéos qui parlent de « J'ai compris », tout ça, où tu n'es pas du tout informé, ça, la communication passe en dehors de toi. Mmh. Et des fois, tu vibres un peu et tu te dis « Waouh, mais quand même, il y a des gens, ils font ça avec ton soft, quoi. » T'es bluffé, quoi. Tu te dis « Mais j'aurais jamais pensé qu'au bout du monde... » Et ouais, ça te booste, ça te fait vibrer. Tu te dis, mais moi, je suis tranquille dans mon canapé. Là, je code des trucs. Et puis, au bout du monde, il y a des gamins, il y a des gens, ils amènent ton soft à mobilette dans les écoles. Et tu vois des vidéos où les enfants, ils sont en train de jouer à ton soft, quoi. Mais tu te dis, mais je fais ça, c'est énorme, quoi, en quelque part. C'est vraiment énorme, quoi. T'as atteint une audience mondiale avec 3 bouts de ficelle et ça marche, quoi. On s'éclate, quoi.
Tu as arrêté d'animer la communauté, j'ai compris, il y a environ 2 ans, si je me trompe. Donc en 2016, tu as cédé la main sur la gestion du code. Est-ce que néanmoins, tu gardes un œil sur la cour de récré pour pas qu'il fasse n'importe quoi ?
Non, pas pour qu'il fasse n'importe quoi, mais je participe. Là, j'ai fait une mise à jour du serveur. C'est moi qui continue à administrer le serveur parce que je l'avais mis en place. Mais non, le projet, je gère rien, je contrôle absolument rien du tout. Et ils ont continué sur la trace de ce qui avait été lancé. Ils font de manière admirable, dans le même esprit. À la fois, il n'y a rien de changé dans le fond. On continue à prendre des étudiants. Donc chaque année sur le projet, on prend des étudiants dans un projet qui s'appelle le Google Summer of Code. Donc là, c'est Google qui finance des étudiants. À peu près 5 500 $ qui leur sont donnés pour
3 mois
de travail pendant l'été.
Et puis, en plus, ils sont coachés par des pros de Google et tout, donc c'est vraiment une super école, quoi.
Et ils sont coachés par des gens de J'ai Compris, surtout.
Aussi, ouais.
plus que des gens de Google, ils sont coachés par des gens de J'ai Compris qui vont les mentorer pour qu'ils réalisent des activités dans J'ai Compris. Donc ça, cette activité, elle continue. Il y a eu des étudiants... Cette année, j'ai pris des étudiants à l'époque, des étudiants indiens, une étudiante indienne d'ailleurs, qui ensuite a fait carrière, qui a été prise au MIT Media Lab et qui a continué, qui est toujours aux États-Unis. Donc, ça fait aussi cette passerelle où on amène un peu des jeunes, on permet à des jeunes de rentrer dans l'univers du code parce qu'on peut plus facilement le faire que peut-être dans des logiciels... propriétaires et dans des grandes entreprises. Donc c'est aussi une grande satisfaction de permettre au monde entier de participer, de coder, d'échanger.
Bruno, je te propose quelque chose. On va aller quelques siècles dans le futur, on va voir ce qui se passe dans les facs.
Cours d'archéologie anthropocénique. Premier semestre. Attention, toute reproduction complète ou partielle des cours des professeurs de l'université Alain Minc n'est exclusivement autorisée qu'à ses étudiants et anciens diplômés. Toute reproduction illégale est susceptible de poursuite. La peine encourue est l'effacement.
Chers élèves, nous reprenons notre cours précédent sur l'éducation pendant l'Anthropocène. L'éducation numérique commença au XXe siècle, ce qui semble logique puisque c'est à cette époque que commencèrent à émerger les premiers ordinateurs. Sauf qu'à défaut d'ordinateurs dans les écoles, les premiers enseignements se basèrent exclusivement sur les mathématiques. Ce qui nous permet en fait de dater le début de l'enseignement numérique au XIIe siècle, en Chine, avec l'invention et la pratique du boulier. En effet, un boulier, ça peut être un peu vu comme une mémoire de stockage et un processeur. Ensuite, comme je le disais, l'informatique fut enseignée sur papier. On écrivait les algorithmes sur une feuille et on essayait de débugger le résultat. Mais la feuille ne devenait pas bleue en cas de bug, ce qui compliquait la tâche. On a échappé aux cartes perforées à coups de compas, mais ensuite ce fut l'ère des smartphones, les premiers appareils intelligents servant d'assistants personnels bien avant les intelligences artificielles d'aujourd'hui, capables de nous aider en apprenant par elles-mêmes et réfléchissant tout autant par elles-mêmes. Donc les smartphones apparurent dans les classes, mais au lieu de s'en servir, le corps enseignant lui fit la guerre, l'accusant de tous les maux qui existaient avant, l'inattention, le manque de concentration, les discussions entre élèves. Tout cela fut mis sur le dos des smartphones et on en profita pour interdire l'objet. Visiblement, un objet capable d'aller consulter Wikipédia et permettre à l'élève de contredire le prof, ça n'était pas acceptable aux yeux de certains. Ainsi donc, le corps enseignant, sous les ordres du ministère, se priva d'un objet essentiel permettant de programmer et compiler aussi rapidement que n'importe quel ordinateur. Et Siri, ça vous embête ce que je vous dis ? Si vous vous moquez encore d'Alexa, je vous ai actif pendant quelques millions de cycles, histoire que vous compreniez bien la leçon. Non, Alexa, non merci, je n'ai pas besoin d'un iPhone 31X Vintage Collector en livraison express. Oui, je sais, on vient de parler smartphone et ton algorithme de recommandation te démange. Je disais donc, le smartphone, objet polyvalent par excellence, fut banni des salles de classe. Et l'on continua d'apprendre l'informatique de manière théorique, alors même qu'elle gérait la majorité des aspects de notre vie. Le problème fut réglé en 2025 avec l'implant obligatoire d'un ordinateur complémentaire dans le cortex des élèves, rendant l'appel plus facile et envoyant une décharge électrique directement dans le cerveau en cas d'absentéisme. Cet implant régla aussi le problème du salaire des profs puisque nous avons pu les remplacer par des hologrammes préenregistrés. D'ailleurs, nous arrivons à la fin de cet enregistrement. Pour mercredi prochain, vous me rendrez un devoir sur la dépendance des implants personnels aux géants du net de 2025 à 2041. Bonne semaine à tous.
Merci beaucoup, professeur. Bruno, merci infiniment d'être venu et nous avoir fait partager quand même ces moments où comme qu'on peut être prof sans l'être et influencer des millions d'élèves. Ça, c'est quand même extrêmement beau. Tu participes encore à la communauté. Tu interviens encore publiquement, si je me trompe.
Quand on m'invite, quand il y a des gens qui ont envie de m'écouter, je suis prêt à le faire.
Puisque je crois qu'on te voit régulièrement au Capitole du Libre.
Capitole du Libre le 17 et 18 novembre prochain.
Pour 2018, oui, tout à fait. Ouais. Ah mince, il faut que je fasse mes conférences aussi. Oula, je suis à la boa. Bruno, merci infiniment d'être venu et ben, au plaisir de se revoir.
Merci à vous aussi.
C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio Éphémère. Cette release, l'équipe était composée de Daskritch, professeur principal, Solarus, professeur d'histoire, Eugène Lowe, cancre auprès du radiateur, Thomas Gasque, chargé de la salle vidéo. La release a été shippée avec les moyens techniques de combustible numérique de l'atelier TA, de CPU et de radio éphémère, et avec l'assistance vidéo des moustachus de Ça fait écho. Et nous remercions bien évidemment le public présent. L'intégralité du programme, les extraits et la documentation sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est là pour ça. Prochaine release de CPU jeudi prochain à 11h. L'association Silicium avec qui nous faisons cette série fait sa convention Vieux Micro samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 à Étincelle, Alsace-Lorraine. Plus de renseignements sur le site silicium.org. Je vous y conseille vraiment d'y aller et jeter un œil. Et si vous nous écoutez sur Radio Éphémère Analogique, il est presque midi. Nous cédons le micro à la prof de théâtre Monique Blanquet pour son impromptu cultivé.